bonsoir, bienvenue sur Radio Campus Paris pour La Relève, votre quinzomadaire radiophonique consacré aux premières fois et aux nouveaux récits, à moins que ce ne soit l'inverse, on ne sait plus, et ce soir peut-être encore moins que d'habitude. Ce soir on va parler de sciences physiques et d'amour, et c'est peut-être un peu la même chose. Pour cela il fallait un invité comme le mien ce soir, un invité qui est, j'invente le nom, non-fictionneur. Bonsoir Loïc Hecht.
Bonsoir Christophe.
Vous faites partie de la liste des rattrapés, est-ce que vous êtes heureux de l'apprendre ?
Eh ben, c'est super.
Pour une raison que je ne m'explique pas, vous avez raté lors de la parution de votre premier roman, Le syndrome de Palo Alto, qui était paru aux éditions Léo Cher.
Ouais.
Et toujours pas en poche ? Ils font quoi les éditeurs ?
Peut-être que là ça va,
peut-être.
Ça va peut-être venir avec la simulation du coup.
Et donc on est content de vous rattraper donc, pour pas... Votre premier récit de non-fiction, Je me rattrape aux branches comme je peux, la simulation d'une enquête journalistique et intime qui vient de paraître aux éditions Les Arènes. Alors, vous, d'où l'invention du terme de non-fictionneur, après tout, pourquoi ça n'existerait pas ?
Non, c'est super, j'aime
ça,
bien, ça me
ça
plaît.
Vous plaît
ouais. Ouais,
ça vous va ? Alors, vous êtes un journaliste essentiellement, de ce que j'en sais.
Et société.
Vous viviez relativement tranquille, et puis un jour, vous découvrez une information que beaucoup de gens ont dû lire ou auraient pu lire dans le New Yorker, et passer à autre chose. Moi, je suis à peu près sûr que si ça m'était arrivé à l'époque, c'est ce que j'aurais fait. Mais vous, ça va vous occuper pendant plusieurs années. De quoi s'agit-il ?
Eh ben, donc je lis un article du New Yorker consacré à...
On est en 2018, hein ?
2016 même. Consacré à un type qui allait dans l'ombre, mais qui est encore relativement inconnu, qui s'appelle Sam Altman, qui vient donc de fonder OpenAI. Et l'article, voilà, revient un petit peu à la fois sur le personnage et sur son obsession qu'on pourrait être un jour asservi par une IA, voilà, qui nous dépasserait en tout point. Et du coup, il crée OpenAI dans ce cadre-là en se disant le meilleur moyen de que ça n'arrive pas, c'est encore de la créer nous-mêmes. Bon, avec toutes les limites qu'on peut constater 10 ans après. Mais ce qui, moi, va m'intéresser dans l'article, c'est que le journaliste, en fait, raconte que parmi les sujets connexes, les sujets qui reviennent pas mal autour de cette obsession de l'intelligence artificielle qui pourrait
émerger, prendre le contrôle.
Exactement. Que l'autre sujet qui revient beaucoup, c'est la simulation. Autrement dit, la possibilité qu'on pourrait peut-être vivre dans une simulation. Et le journaliste nous apprend, au détour vraiment de deux phrases, qu'il y a 2 milliardaires de la Silicon Valley, donc qui pensent qu'on vit dans une simulation, qui ont embauché secrètement une équipe de scientifiques pour... peut-être trouver un glitch dans le code de la réalité et prouver donc qu'on vit dans la matrice.
Vous en avez déjà entendu parler avant de cette idée de simulation ? Alors là, vous venez de citer de Matrix, mais au-delà de ça, est-ce que c'était quelque chose auquel vous aviez déjà travaillé ?
C'était quelque chose auquel j'avais déjà pas mal pensé, parce que Matrix, effectivement, j'ai été un lecteur assez sérieux de Philippe K. Dick, en tout cas, donc je pense que j'avais lu Ubik et peut-être Le Temps des Articulés aussi. C'est quand même un sujet qui est pas nouveau, qui est déjà là dans la science-fiction des années 60-70.
Et vous-même, dans la vie de tous les jours, vous êtes déjà dit parfois, peut-être que finalement je ne suis rien et que quelqu'un se joue de moi ?
J'ai jamais trop versé, je dois dire, dans l'idée qu'on serait des Sims... dans le jeu vidéo d'on ne sait qui, mais en revanche c'est vrai que la question de savoir qu'est-ce qu'on est en dernier lieu et est-ce que cette réalité là, telle qu'on l'aperçoit est vraiment la réalité telle qu'elle est, ça c'est une idée qui m'a traversé pas mal.
Allez. Alors là c'est aussi une référence de pop culture, je vous laisse, moi je l'ai mise exprès là, on va laisser parce que la musique est pas si mal, c'est un peu facile mais elle met bien une ambiance tout de suite. C'est dans les années 2000 ça, moi je me rappelle plus, 2010, ça
X-Files.
Passe en France, je
non,
sais pas du tout.
Même avant, hein.
Même avant
ouais,
non,
ouais,
on
ouais,
était
ouais,
pas né alors.
Non, j'étais au collège moi quand ça passait, ouais. Donc je suis pas tout jeune. Hein.
Donc X-Files c'est surtout le slogan de fin, enfin le résumé à la fin, qui est la vérité est ailleurs, c'est un peu l'histoire de la simulation. Parce que là on en a parlé très vite, moi je sais de quoi vous parlez, je suis pas sûr que tous les gens qui écoutent se comprennent. Qu'est-ce que c'est que cette idée de simulation ?
Bon, en gros la question que pose la simulation c'est donc est-ce que la réalité telle qu'on l'aperçoit est la réalité telle qu'elle est en dernier lieu. Et il y a une idée qui émerge en fait un peu de pair avec cette fameuse rumeur de la Silicon Valley. c'est qu'on a en fait une poignée d'entrepreneurs, mais aussi de philosophes, de physiciens, de chercheurs en intelligence artificielle, qui sont souvent affiliés par ailleurs à de très belles institutions ou universités. Hein. Ils travaillent à la NASA, ils travaillent au MIT, ils travaillent à Berkeley. Et en fait, ce qu'ils nous apprennent, et ça va être un peu la première surprise, un peu le premier vertige de mon enquête, c'est qu'en vertu de ce qu'on a découvert du fonctionnement de la physique quantique depuis une centaine d'années, à savoir que à cet endroit-là, l'endroit du tout petit, en fait, l'endroit des particules, la réalité a une particularité, c'est qu'elle n'existe pas comme un ensemble qui serait matérialisé ou qui serait défini. Non, en fait, la réalité existe comme un ensemble de probabilités, un ensemble d'états que les physiciens appellent superposés. Autrement dit, c'est un ensemble de potentialités, mais qui ne sont pas encore advenues. Et c'est seulement en physique, quand quelque part on a besoin de voir à quoi ressemble la réalité, donc dans le cadre d'une expérience, que là, toutes les probabilités disparaissent, elles s'effondrent, il y en a une seule qui reste, et c'est un peu notre réalité matérielle, si on caricature un peu. S'il y avait un physicien, il me dirait que c'est pas exactement ça, mais on a à peu près l'idée. Et en fait, en extrapolant cette bizarrerie de la physique quantique, ces chercheurs se posent la question de savoir, mais est-ce que en fait, notre réalité ne fonctionnerait pas comme les jeux vidéo que l'on fabrique déjà? Alors, il y en a un d'entre eux que je rencontre qui me donne l'exemple de GTA, il me dit en fait, GTA, c'est un jeu qui est gigantesque, qui fait la taille de la ville de Paris, mais il est codé de telle manière qu'il ne donne au joueur à voir que ce qu'il a besoin de voir au moment où il a besoin de le voir. Autrement, en fait, la console ne serait pas en mesure de supporter une telle charge et elle planterait. Et du coup, la physique quantique, étonnamment, a l'air d'emprunter un peu une manière de fonctionner qu'on pourrait qualifier d'analogue. Et donc, du coup, de là, on tire un peu le fil du sujet et on se rend compte qu'en fait, les neurosciences viennent nous dire aussi que la réalité telle qu'on l'aperçoit, encore une fois, est déjà une espèce de simulation qui est faite par le cerveau, mais que ce n'est pas la réalité telle qu'elle est. Et puis voilà, on peut tirer le fil comme ça pendant un petit peu longtemps et vient se dessiner, pas une, mais deux hypothèses, que effectivement, peut-être que notre réalité serait donc une forme de simulation.
Et donc nous, on serait des personnages de jeux vidéo joués par d'autres. Moi, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de jouer à Christophe quelque part. Et vous, il y a quelqu'un qui joue peut-être un ou plusieurs, ou peut-être une entité, on ne sait pas trop, qui joue à Loïc. Et alors qu'on croit être tous les deux des êtres disposant d'un libre arbitre et d'une conscience propre, peut-être qu'on est finalement agi par autre chose.
Et ben ça, c'est voilà, c'est la première version, c'est la version très Silicon Valley justement. C'est une version qui repose sur une vision matérialiste de la réalité. Elle repose en fait sur l'idée que la conscience, en fait, en dernier lieu, ce serait de la matière.
Pablo, tu peux arrêter de boire tout de suite.
C'est pas, et du coup, c'est pas une idée si délirante parce que c'est dans l'absolu la thèse dominante des neurosciences. Aujourd'hui, on sait que quand, en tant qu'être humain, on perçoit quelque chose, une scène, un coucher de soleil, être ici, là, dans ce studio, il y a un certain nombre de zones dans le cerveau qui vont s'activer. Ces zones qui s'activent, on est capable de les mesurer avec des appareils. Mais en revanche, il y a toute une dimension subjective de l'être que celle-là, on n'explique pas. Mais bon. Mais en tout cas, nos amis de la Silicon Valley, qui pensent qu'on est peut-être dans une simulation, ils se disent, mais en fait, le cerveau fonctionne un petit peu comme un ordinateur et la conscience serait comme une espèce d'algorithme. Donc, quand bien même on ne comprend pas très bien aujourd'hui, ils émettent cette possibilité de dire « Bon, nous, en l'espace de 60 ans, on est passé de Pong à ChatGPT, à des réalités virtuelles qui sont aujourd'hui vraiment absolument époustouflantes, à des jeux vidéo là, comme GTA, sur des, qui existent dans des détails absolument gigantesques. » Et du coup, ils se disent « Bon, bah, si une civilisation a fait le même progrès technique que nous, mais pas sur quelques dizaines d'années, mais des siècles, bah peut-être qu'elle a compris la conscience, peut-être qu'elle est capable de la reproduire, peut-être qu'elle est capable de l'implémenter sur n'importe quel type de substrat. » Et donc, cet ensemble d'éléments, tout à coup, vient ouvrir la possibilité de fabriquer des jeux vidéo à l'intérieur desquels les êtres qui les habitent pourraient croire qu'ils sont en train de jouer, d'être conscients, d'avoir leur libre arbitre, alors que tout ça, en fait, serait qu'un grand... un grand ensemble de, voilà, de signaux
électriques. Une grande illusion, finalement. Votre livre s'appelle La Simulation, mais ça aurait pu s'appeler la grande illusion, ça a déjà été pris, mais l'illusion parfaite, quasiment. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est un glitch? Parce que c'est ce qu'ils cherchent tous, le fameux glitch.
Bah, du coup, c'est vrai que c'est, on se souvient dans Matrix.
Moi, j'ai jamais vu Matrix, donc bon, je sais pas si je suis le seul.
Bah, il y a pas grand monde, mais bon, vous êtes quelques-uns. Bon. Non, mais en fait, dans Matrix, il se passe un truc un peu étonnant. C'est que, voilà, ces dissidents du réel que sont Neo et sa petite bande, parfois décident d'aller dans la matrice, donc dans ce qui est en fait l'équivalent de notre monde. Mais parfois, à l'intérieur de ce monde-là, il y a des anomalies, un petit moment où en fait, on pourrait dire la réalité part un peu en couille. Et dans Matrix, par exemple, il y a une scène où en fait, il y a deux chats noirs qui passent à la suite. C'est vraiment exactement le même truc. Ils se disent, oula, là, il y a un glitch qu'un déjà vu en fait, en l'occurrence. Et l'idée, en extrapolant ça, est de se dire, ok, si on vit dans une simulation, alors il faut qu'on identifie l'anomalie, il faut qu'on identifie le glitch, et ça devient en fait quelque part et la quête des chercheurs que je rencontre, et un peu la mienne aussi dans le livre.
Parce que donc si on trouve une erreur, entre guillemets, de codage, c'est à peu près ça, c'est un bug ?
C'est un bug.
C'est un bug ?
Ouais, c'est un bug.
Et alors vous en avez trouvé, vous ?
Moi, je dirais qu'en fait, je me suis retrouvé de manière absolument inattendue sur une piste qui est une deuxième version de la simulation, quelque part. J'ai rencontré à un moment donné un chercheur en physique quantique qui s'appelle Tom Campbell, qui a imaginé une série d'expériences pour justement, quelque part...
On va en reparler après, parce que je voudrais qu'on continue sur cette simulation. Vous connaissez la Silicon Valley, vous avez travaillé, vous avez été souvent à San Francisco, j'imagine, vous les connaissez bien. Vous n'êtes jamais dit que c'était un discours marketing qu'ils avaient servi pour se faire leur intéressant et réussir encore à lever des fonds et...
Bah, alors, c'est vrai que c'est en l'occurrence le plus grand, le VRP de la simulation, c'est Elon Musk. Et Elon Musk, en fait, quelque part, c'est quelqu'un qui n'a jamais investi le moindre dollar dans Tesla en pub, en promotion. Donc, Elon Musk, en fait, quand il prend la parole et qu'il raconte n'importe quoi, il fait de la publicité pour Tesla, il fait de la publicité pour SpaceX. Et Elon est, en fait, le mec qui a été, je dirais vraiment, voilà, la personne qui a porté le sujet de la simulation en 2016 dans l'espace public. Et à partir de ce moment-là, ça a pris beaucoup d'espace. Donc, quelque part, oui, il y a un peu de ça. Pour lever de l'argent, je ne crois pas. Après, il y a un deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'effectivement, ce n'est pas étonnant que ça vienne de la Silicon Valley. On a, en fait... affaire à des ingénieurs, des entrepreneurs qui passent leur journée eux-mêmes à faire des simulations. Mmh. Des simulations de produits. Elon Musk, il fait des fusées. En fait, on fait des simulations de fusées. Avant de faire un lancement, il y a 10 000 simulations avant. Donc en fait, ils évoluent dans un monde où tout est informatisé, tout est simulé. Ils fabriquent des intelligences artificielles qu'ils ne comprennent même plus vraiment, qui les dépassent. Donc tout à coup, se dire, et si on vivait dans une simulation ? C'est un réflexe presque logique. C'est en fait un réflexe aussi très, très humain, parce qu'en définitive, on a toujours perçu la réalité et peut-être ce qu'elle pouvait être à l'aune de là où on était en termes de progrès technique.
Et en plus, ils ont été irrigués par toute la contre-culture des années 50, 60, 70, qui est quand même nourrie de mondes parallèles, de mondes alternatifs. Il y a toute l'histoire des soucoupes volantes là qui revient un peu dans l'air du temps. Voilà, c'est le mot que je cherchais, à l'ère Trump. Il baigne dans ce monde culturel-là, contrairement à nous. J'ai l'impression que peut-être moins rationaliste qu'on imagine.
Non, c'est vrai. Enfin, t'as raison. En fait, c'est le berceau aussi de la culture du LSD, qui était, par exemple, un produit qui permettait d'explorer d'autres dimensions, d'autres espaces de conscience. Donc ça colle.
Vous le racontez. Il y a un moment, c'est quand même le père de George Bush premier, qui est directeur de la CIA, autorise des expériences sur le LSD, non ? Où je mélange deux choses.
Je ne parle pas de ça dans le livre. Mais c'est vrai qu'à peu près au même moment, la CIA effectivement fait des expériences. Je crois que c'est MK Ultra, le nom du programme Sidney Gottlieb. Mais je sais, je veux pas dire de bêtises parce que je sais pas si c'était Bush père. Mais c'est à peu près les mêmes années. Mais effectivement, au-delà de ça, il y a vraiment cette idée que on est à un endroit, cette Californie là, qui est le berceau de tout un tas de mouvements en fait, qui invitent à repenser en permanence la réalité. Parce que même les produits qui en sortent, et c'était un peu le sujet de mon premier roman, c'était l'idée de dire, en fait, ce qui est fabriqué dans la Silicon Valley finit par déferler sur nos vies et changer complètement notre vision du réel et comment on se comporte en fait, dans le monde. Donc, il y a beaucoup de passerelles.
Est-ce que c'est difficile, parce qu'il y a quand même 400 pages, à la fin, il y a un livre de 400 pages, où vous expliquez tout ça et avec la même pédagogie. Mais est-ce que c'est difficile de les rencontrer, tous ces gens-là ? Par exemple, le mec du, enfin le journaliste du New Yorker qui a écrit l'article, en gros, il vous dit non, il veut pas vous parler.
Il veut pas m'en dire plus que ce qu'il y a écrit dans le journal, c'est clair. En fait, c'est rigolo parce que rétrospectivement, quand on me pose la question, j'ai toujours envie de répondre bah non, parce qu'en fait, j'y suis arrivé. Mais disons que il faut faire preuve d'abnégation quand on est un outsider et qu'on ne vient pas de ce milieu. Parce que moi, je suis pas un journaliste tech américain qui sont eux-mêmes des espèces de stars et pour eux, c'est un peu porte ouverte. Mais c'est vrai qu'on est un petit gars qui vient de France et qui dit bon bah j'aimerais bien vous interviewer là-dessus. C'est pas toujours simple, mais voilà. Donc il faut pas hésiter à parfois insister, à essayer de prendre les gens un peu par les sentiments. Et c'est pour ça qu'en fait tout de suite, d'ailleurs, le livre s'ouvre par je pars à San Francisco parce que c'est plus simple d'avoir les gens quand on est sur place. On peut faire valoir quand même, je suis venu, j'ai traversé le monde, faites un effort. Et après, il peut y avoir aussi un effet boule de neige qui se met en place où une personne qu'on rencontre, le contact passe bien, il nous passe le contact de quelqu'un d'autre, etc.
Sur tous ceux que vous avez parié, réussi à avoir, lequel vous regrettez le plus ?
S'il y en a un que je regrette vraiment, c'est le frère d'Elon Musk, parce que j'ai été très 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 proche de l'avoir. En fait, j'avais un oui de principe pour une interview où je voulais lui parler de simulation, mais je n'ai
pas... Vous aviez triché, vous aviez fait croire que c'est pour parler de cuisine.
C'est ça, j'ai fait croire que c'est pour un livre de cuisine, parce qu'il sortait un livre de cuisine. Mais bon, c'est pour ça, c'est ce qu'on se disait. Il faut oser un peu, quoi. Aller, ouais. Mais voilà, ça m'a un peu saoulé. Après, bien sûr, j'aurais bien aimé avoir Elon Musk, je l'ai tenté, mais je savais que c'était un peu
un truc désespéré.
Bouer la mer.
Mais ce qui est, faut peut-être rappeler le rapport entre Musk et son frère, parce que tout le monde le connaît pas, vous le connaissez, c'est que Elon Musk a dit un jour que avec son frère, c'était interdit d'en parler entre eux.
Oui, en fait, dans la fameuse sortie que Musk fait en 2016, où il parle de la simulation publiquement pour la première fois dans une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube dans le cadre d'une conférence tech, où il dit qu'il pense qu'il y a plus de chances que l'inverse qu'on vive dans une simulation. Il raconte qu'en fait, c'est le sujet le plus excitant au monde, tellement qu'avec son frère, en fait, ils se sont forcés à dire il est interdit d'en parler si on est dans un jacuzzi ensemble.
Voilà. Bon ben, elle ne donne rien à un jacuzzi qui n'est pas une simulation. Allez, on écoute un peu de musique et on se retrouve. Loïc Hesch, je rappelle, vous êtes l'auteur de La Simulation aux éditions Les Arènes. C'était Fischbach, Mortel. Elle s'appelle même Flora Fischbach maintenant. Et c'était Mortel et c'est sur Radio Campus Paris. Et c'est toujours la relève avec Loïc Hecht, l'auteur de La Simulation aux éditions Les Arènes. Il y a un moment, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie d'arrêter ?
Non.
Même quand Rovelli, j'ai oublié son prénom, vous dit que finalement tout ça, ça tient peut-être pas.
Non, parce que au contraire, je trouve qu'en fait c'est super qu'ils disent que ça tienne pas la route, parce que voilà, on peut
pas. J'ai pas osé aller jusque là.
Ouais. Non, mais parce qu'en fait, moi, l'idée n'était pas de prendre parti pour qui que ce soit. C'était vraiment de dire voilà aujourd'hui un peu l'état des forces en présence sur cette question-là. Mais Rovelli, en fait, que Rovelli ou Tom ou qui que ce soit en fait ait raison. En vrai, personne ne peut avoir raison parce que c'est une histoire d'essayer de décrire le fonctionnement de la réalité. Et il y a un endroit où on parle d'échelle qui nous dépasse totalement.
Sleeve, c'est que juste on venait d'en parler. C'est aussi l'histoire d'un quasi coup de foot pour Tom Campbell. Vous avez ressenti quelque chose de. On sent qu'il y a eu quelque chose de fort entre vous. Vous pouvez nous parler de lui un peu, qui il est. Est-ce que c'est quelqu'un qui manipule? Quel rapport vous aviez avec lui?
Tom, en gros, donc c'est un physicien qui a fait sa carrière dans l'armée américaine, la NASA, Boeing, qui a passé sa vie à faire des simulations, mais qui a la particularité d'avoir fait partie d'un petit groupe de chercheurs dans les années 70 qui ont exploré pas mal d'états de conscience modifiés, dont les sorties de corps. Tom a eu manifestement un certain nombre d'expériences.
Juste redire un truc parce que je pense toujours aux auditeurs qui sont plus jeunes que moi et qui ont peut-être pas le contexte en tête. C'est qu'on est dans les années 70, il y a une guerre, comment on appelle ça, la guerre froide. Enfin, c'est plus la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et ils se disent que la sortie de corps, ça sera un super moyen d'espionner. Ce à quoi j'avais. Ah, c'est ce que moi, c'est pas lui.
Non, si. Non, mais c'est le cas. Mais Tom, en fait, lui, travaille pas pour. En fait, pour le coup, ses explorations, il les fait pas pour le compte de l'armée. C'est qu'en fait,
une autre personne que vous avez croisée.
Pas vraiment parce que les histoires se recroisent. Mais en fait, en l'occurrence, eux explorent ça. C'est leur intérêt. Et effectivement, la CIA, au bout d'un moment, va se dire, c'est quand même intéressant leur truc. On pourrait peut-être récupérer ça. Mais eux, ils le font pas à des fins militaires. En l'occurrence, ils le font vraiment à des fins de.
Revenons à Tom et à ses expériences. Donc
ce sont des explorateurs de la conscience. Et en fait, c'est ça qui va me surprendre justement parce que bon, moi, je le rencontre 40 ans, voire presque 50 ans après ça. Et lui, entre-temps, voilà, dit qu'il a, enfin, il propose un modèle de la réalité où il dit, en dernier lieu, là, la réalité physique matérielle telle qu'on l'aperçoit n'est pas la réalité telle qu'elle est vraiment. C'est un petit fragment, mais d'une réalité qui est beaucoup plus grande et qui a aussi une dimension. Non physique, non matériel. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que quand lui, il fait ses sorties de corps, mais ou quand d'autres prennent, je sais pas, des champignons au fond de la méditation, ce sont autant, quelque part, de techniques ou de moyens qui permettent d'avoir accès à un degré de réalité un peu plus grand. Bon, il me raconte tout ça, ça a l'air un peu mystérieux, un peu farfelu presque. C'est vrai que moi, après le premier entretien, je me dis, ok, soit ce mec a compris quelque chose et que beaucoup d'entre nous ignorent, soit il est complètement cintré, quoi. Mais
peut-être les deux, hein. Peut-être qu'on est dans un monde où les deux sont possibles.
En fait, bon, les deux peuvent toujours cohabiter. Mais en l'occurrence, ce qui va m'intéresser avec lui, c'est qu'il a imaginé une série d'expériences de physique quantique qu'il a fait financer pour prouver en fait ce qui l'intéresse. Et lui, ce qu'il veut prouver, c'est que la réalité, en dernier lieu, c'est pas de la matière, c'est de la conscience. Et c'est donc la deuxième version de la simulation qui est en fait ni plus ni moins ce que les bouddhistes nous disaient, enfin ce que le Bouddha.
Peut-être expliciter un peu quand même.
Bah, c'est l'idée.
Moi j'ai lu le livre. Tout...
Non, mais c'est l'idée qu'en fait, en dernier lieu, la réalité serait une espèce de. Une espèce d'espace et à la fois une espèce d'entité, une espèce d'énergie à l'intérieur. Ce serait en fait la matrice du monde. La matrice du monde, en fait, serait quelque chose d'absolument impalpable, mais à l'intérieur de quoi tout pourrait advenir et tout pourrait exister. Et donc, notre réalité serait un petit monde qui serait advenu à l'intérieur de cette conscience. Nous serions nous-mêmes des petits éléments appartenant à cette grande conscience, mais pour des raisons qu'on ignore un peu, on aurait oublié. Et ce qui est donc intéressant, c'est qu'en fait, cette théorie est le cœur du bouddhisme, le cœur de l'Advaita Vedanta, qui est une philosophie liée à l'hindouisme. C'est aussi ce que nous disait déjà Platon il y a 2500 ans. Donc ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a finalement des penseurs et des courants de pensée qui traversent l'histoire de l'humanité, qui disent déjà ça il y a 2500 ans. Donc moi je me dis, bon, ça vaut peut-être le coup en fait de tout reprendre à zéro, d'y aller sans avoir absolument aucune idée préconçue sur quoi que ce soit. Et je me dis, en la personne de Storm Campbell, il y a un truc à tirer. Et donc, je commence à le solliciter beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais lui qui me sollicite. Il n'y a pas une forme de manipulation. Il voudrait me vendre une pilule, en fait. Il en a pas, je crois qu'il n'est pas vraiment intéressé, ni qu'il en a vraiment besoin. Mais pour revenir un peu à ce qu'on disait plus tôt, en fait, le harceleur de l'histoire, c'est moi. Et je me souviens que sa femme, qui prenait les rendez-vous pour lui, au bout d'un moment, elle était en mode, mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce gars, quoi ?
Vous-même, vous avez vécu une expérience de sortie de corps, on peut le dire ?
Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est pas exactement...
Non, c'est une expérience de visualisation.
Je vis une expérience, en tout cas, mais dont je préfère quand même laisser... je préfère laisser la primeur au lecteur, mais effectivement, en fait, moi, je suis un peu comme ce saint-là, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Bon, c'est ma position de journaliste, même si je suis très subjectif dans la manière de d'écrire, mais en revanche, il y a des faits avec lesquels on ne transige pas. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est possible de sortir de son corps ou de voir à distance ou ce genre de choses...
C'est une très mauvaise nouvelle pour tous les gens qui mettent des caméras. Je ne vais pas te faire de pub à l'antenne, mais pour leur business, c'est une mauvaise nouvelle, pardon. C'est une blague nulle.
Ouais, continue. Mais ouais, c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Bon, moi, je me dis, et on me dit, écoute, il y a un séminaire auquel tu peux participer pour tenter de faire ça. Bon, je me dis, allons-y. Et effectivement, au cours de ce séminaire, il va se passer quelque chose qui n'est donc pas une sortie de corps, mais qui est, voilà, du ressort du paranormal.
Dans ce livre, vous parlez de vous, c'est aussi une histoire intime, vous racontez des choses sur vous et sur qui vous êtes. Vous restez cependant, moi je trouve, assez pudique, il y a des barrières. Je ne vais pas vous demander la réponse à la question, mais de savoir si vous avez trouvé vous. Est-ce que vous savez ce qui, dans cette histoire, vous a interpellé, comme on disait à une époque ? Quand vous avez lu cet article, ce qui vous a frappé et pourquoi ça vous a attiré ?
Je pourrais pas dire pourquoi c'est l'article. Enfin, c'est pas en lisant l'article où je me suis dit ok, là je vais comprendre quelque chose. Mais rétrospectivement, quand je refais l'histoire, en fait, je vois bien que ça a été ma porte d'entrée pour finalement m'intéresser à ce que je qualifie de vraies questions. Enfin, essayer de comprendre en définitive.
Qu'est-ce qui a résonné dans vous dans cette histoire ?
Je pense que c'est l'idée de comprendre c'est quoi la réalité dans laquelle on vit et qu'est-ce qu'on est nous là-dedans. En fait, c'est une quête d'absolu et c'est vrai que du coup le livre s'attelle à ça et je suis pudique, mais ce que je raconte aussi, c'est comment je finis en fait par vaciller totalement face à l'étendue de ce que je rencontre, quoi.
Ça va, vous êtes remis ?
Je continue d'explorer.
Ah, vous continuez encore ? Vous continuez à suivre des formations ?
Non, mais je continue à essayer de comprendre de quoi ce monde est fait. Et voilà, ça va être le sujet, à mon avis, de plusieurs choses après coup.
Très bien. Je redonne le titre de votre livre, Loïc Hesch, ça s'appelle La Simulation, c'est publié aux éditions des Arènes. Merci d'être venu.
Avec plaisir.
Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Voilà, c'était La Relève, une émission proposée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo, auquel je répète qu'il ne sert à rien de boire de l'eau, puisque nous ne sommes que des simulations et que l'eau n'existe pas. C'est très mal raconté. Je saborde votre livre à la fin.
Non, mais c'est super, c'est comme ça.
Merci.
Merci beaucoup, c'est moi.
Merci beaucoup. Vous retrouvez à 19h la matinale de Radio Campus, qui est déjà dans une simulation. Et on vous souhaite une bonne soirée. À dans 15 jours. Au revoir.